Bonjour à toutes et à tous, on va s'intéresser à trois grandes journées d'événements culturels, mais aussi de débats, d'échanges plutôt sérieux autour d'un sujet que vous avez sûrement évoqué vous aussi ici et là les week-ends avec des amis de la famille ou à l'entreprise, les panneaux photovoltaïques. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce rendez-vous, c'est le printemps photo révolté, c'est à Cajar, à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Alors Cajar, c'est dans le Lot, mais on peut dire que c'est dans l'Aveyron, parce que entre Cajar et l'Aveyron, bah, y a juste la rivière le Lot, quoi. On voit l'un de l'autre, hein. Bon, c'est tout près de nous, à une vingtaine de kilomètres de Villefranche de Rouergue. D'ailleurs, je précise pour ceux qui débarquent dans notre département ces jours-ci, pour me parler de cet événement et des sujets du combat, d'ailleurs mené par plusieurs associations, avec moi dans les studios, Loïc Santiago. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Loïc, que l'on connaît, enfin que je connais sur CFM. Aveyronnais, je précise, toi, t'es pas lotois, hein, Loïc. Hein.
En effet, oui. Ah,
Loïc Santiago, qui est salarié d'une association qui s'appelle la Coordination Nationale Photo Révoltée. C'est bien ça, Loïc. Hein.
Tout à fait.
Pour parler, dire un petit mot de cette association, oui, vous combattez les panneaux photovoltaïques. C'est quoi votre combat ?
En fait, on coordonne la mobilisation qui se tient partout en France avec plusieurs centaines de collectifs contre l'implantation de centrales photovoltaïques sur terres agricoles, naturelles et forestières. Et en fait, on affirme que pour sortir du nucléaire et pour sortir des énergies fossiles, il n'y a pas besoin de mettre des panneaux photovoltaïques sur terres agricoles, naturelles et forestières parce qu'il y a suffisamment d'espace déjà artificialisé, des toitures résidentielles, des toitures industrielles, mais aussi des parkings, mais aussi des bords de route, des voies ferrées, etc., pour correspondre à tous les scénarios de RTE, de négawatts, de sortie du nucléaire et des énergies fossiles.
Donc vous n'êtes pas dans l'association, la coordination, opposé aux panneaux solaires, mais opposé au fait qu'on ait envie de les placer, ou qu'on les place, puisque c'est déjà le cas, dans des endroits qui sont consacrés à la nature, que ce soit des champs d'agriculture, ou même du caillou, simple caillou.
Et même des forêts.
Et des forêts, ah oui,
des forêts. On pourrait revenir, mais...
On déforeste pour des panneaux photovoltaïques.
Exactement, et Reporter vient de sortir une série d'articles qui montrent qu'actuellement en France, plus de 6500 hectares de forêts ont déjà été défrichés pour installer des parcs photovoltaïques à la place. Et actuellement en France, il y a presque 12 000 hectares de terres agricoles naturelles et forestières, dont 6 000 sur forêts, qui ont été atteintes par des centrales photovoltaïques.
Genre, tu l'as déjà dit deux fois... Un petit peu dans le début de cette présentation, vous êtes aussi opposé au nucléaire, parce que c'est vrai qu'on peut opposer les deux. Hein. Il y en a qui disent, bah non, le nucléaire c'est super, c'est décarboné, on ne met pas panneaux photovoltaïques, on vous fait une centrale et puis c'est très bien. Toi, non, c'est aussi un combat contre les centrales nucléaires.
Alors, on ne s'occupe pas spécifiquement de la lutte contre les centrales nucléaires, il y a des associations qui font ça très bien, comme le réseau Sortir du Nucléaire, l'Observatoire du Nucléaire, et tout un tas d'autres organisations, mais on s'inscrit dans leur combat. Il faut rappeler que notre coordination nationale est née lors de deux temps en 2023, lors des Résistantes, le festival qui s'est tenu sur l'Arzac, organisé suite aux grandes mobilisations des soulèvements de la Terre, de Sainte-Soline, etc., mais aussi lors du mois d'août 2023, des rencontres à Bure, des rencontres rurales et paysannes, Bure au lieu de la lutte antinucléaire.
C'est pas là où ils veulent enterrer les déchets, où ils le font déjà d'ailleurs, Bure ?
Exactement, et c'est entre autres pourquoi on récuse et on trouve extrêmement dommage cette fuite en avant nucléaire, entre autres à cause des déchets qui vont être enterrés pour 100 000 ans sous une immense surface à Bure, en plus de la dangerosité en tant que telle des centrales nucléaires, et en plus du modèle sociétal autoritaire qui découle de la présence de centrales nucléaires.
Alors, je le disais, tu es, Loïc, salarié de la Coordination Nationale Photo Révoltée, donc Coordination Nationale, c'est national. Ces sujets, ils sont aussi concrets. Alors là, le Cajar, ce rendez-vous, ces trois journées que vous organisez, c'est dans le Lot. Hein. Mais bon, en Aveyron, il y a des projets de déforester ou de mettre des panneaux photovoltaïques autre part que sur des endroits, je ne vais pas dire déjà bousillés, mais enfin déjà urbanisés ou qui sont plus naturels en tous les cas.
Alors, il y a des projets très intéressants qu'ont mis en place, par exemple, Enerqua, un groupe de Villefranche qui a fait la plus grande centrale solaire sur des parkings à La Rouquette, qui a fait la une des médias il y a quelques mois. Mais malheureusement, par exemple, ce même groupe Enerqua, avec l'appui de Enercoop, va aller déforester plus de 2 hectares de forêt sur la commune de Mouret, une zone de Causse-Comtal, avec plus de...
C'est en Aveyron, ça ?
C'est en Aveyron, sur la Comcom de Conques-Marciac.
Okay.
Et vont aller toucher des terres de Causse-Comtale, donc qui ressemble au Causse du Larzac, mais en version Causse-Comtale. Donc c'est la plus belle zone de biodiversité du centre-ouest Aveyron, sur laquelle il y a une forêt qui va être arrachée pour mettre des panneaux photovoltaïques. Et donc nous, en fait, on dénonce cet opportunisme foncier, parce qu'au fond, il n'y a que ça, c'est parce que c'est moins cher.
Ah, c'est moins cher de déforester une forêt que de se trouver des nouveaux toits de maison, d'immeubles ou de parking.
Ne serait-ce qu'en termes d'économie d'échelle, et c'est plus facile d'aller négocier avec
des
mairies. Ouais. Par exemple, là, Mouret, c'est une mairie qui est propriétaire, donc c'est plus facile de leur donner un petit loyer, parce qu'actuellement, les fonds de dotation les collectivités territoriales baissent, donc forcément les élus sont aux abois et ils prennent toutes les sources de revenus, et c'est plus facile d'aller négocier et de donner des loyers à des agriculteurs et agricultrices qui sont, elles et eux aussi, aux abois, et en leur promettant des revenus qui, grosso modo, sont de entre 2500 et 15 000 euros par année et par hectare.
Ouais, c'est...
Donc forcément, c'est comme une mesure avec toutes les rémunérations du monde agricole. Et donc, ces projets n'existent que sur la misère du monde paysan et sur la baisse des dotations aux collectivités territoriales. Et pour finir là-dessus, c'est moins cher d'aller négocier avec ces gens-là, les élus, les agriculteurs et agricultrices, qu'aller négocier avec un patron d'Intermarché qui sait combien rapporte une centrale photovoltaïque et qui va négocier sa location de parking beaucoup plus cher.
D'accord.
Parce qu'en fait, une centrale photovoltaïque, il faut le savoir, c'est l'INRAE qui nous donne les chiffres. En termes de marge brute, donc de revente totale d'électricité, si on compte pas les investissements et tout ça, un hectare de photovoltaïque rapporte entre 50 000 et 200 000 euros par an et par hectare. Donc forcément, ça fait une belle marge d'électricité, ça attire beaucoup d'investisseurs. Même s'il lâche 2500 euros par an et par hectare à un agriculteur, c'est sans commune mesure avec tout ce qu'ils peuvent toucher.
Il y a aucune... si, il doit y avoir quand même des réglementations en France qui permettent pas de mettre des panneaux photovoltaïques sur le Causse-Comtale ou en déforestant des coins de forêt, quand même, non ? On peut faire comme on veut, du moins que le propriétaire est d'accord.
Il y a eu une tentative d'encadrement que nous, on a dénoncé, qu'on a même attaqué en justice avec la Confédération Paysanne Nationale. C'était l'article 54 de la loi d'accélération des énergies renouvelables qui a été votée et promulguée en 2023, mais en fait qui est une légitimation de l'atteinte aux terres agricoles, naturelles et forestières. Par exemple, pour ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, une notion que nous on récuse, puisqu'on explique, je pourrais revenir, qu'il n'y a pas de distinction entre l'agrivoltaïsme et le photovoltaïque sur terres agricoles, naturelles et forestières. L'agrivoltaïsme peut se mettre sur toutes les terres agricoles, naturelles et même forestières, à partir du moment où les développeurs justifient un soi-disant projet agricole qui va en dessous avec des critères juste qualitatifs.
J'ai vu ça, je sais plus si c'était des vaches ou des moutons, mais il y avait les panneaux, puis en dessous on mettait les... J'ai vu ça,
Où. Et puis pour toutes les autres zones, par exemple forestières, la législation actuelle explique qu'on peut défricher jusqu'à 25 hectares de forêt, sauf certains types de bois potentiellement depuis 2023 qui ne doivent pas produire plus de 3 mètres cubes par an et par hectare. Mais en zone générale, les zones Natura 2000, les INIEF 1, les INIEF 2, zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique, les espaces naturels sensibles, ne sont pas protégés et peuvent être détruits par des centrales photovoltaïques. Et par exemple, nous, on fait face à énormément de projets qui se font sur des zones humides. Ce qui fait que, par exemple, l'an dernier, il y a eu la conférence des autorités environnementales. Donc, ça regroupe un peu toutes les MRAE. Donc, c'est les missions régionales d'autorité environnementale qui sont là pour expertiser les atteintes à la biodiversité de tous les projets. Eh bien, ils font une conférence l'an dernier nationalement. Ils expliquent que dans certaines régions, plus de la moitié des projets photovoltaïques se font en détruisant des zones humides. Et donc, tout le jeu des développeurs, c'est de tout faire dans leurs études d'impact pour minimiser les enjeux, afin que leurs projets ne soient pas soumis à des réglementations comme la dérogation destruction d'espèces protégées, comme un dossier loi sur l'eau, comme à des autorisations de défrichement, pour passer de façon la plus simple possible. Et ça, ça s'explique, et ça, c'est un organisme qui s'appelle le Conseil national de protection de la nature, qui est en fait l'autorité administrative indépendante la plus compétente en matière de biodiversité, qui explique que ce déferlement, cette stratégie d'engorgement des services environnementaux des DDT en France, s'explique parce qu'il y a de moins en moins, justement, de fonctionnaires dans les DDT, dans les services environnement, dans les MRAE, dans les DREAL. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout de deux mois, quand les MRAE sont saisis d'un projet, si elles n'ont pas rendu un avis, il y a un avis tacite favorable. Exactement. Et donc, on a énormément, dans certaines régions, plus de la moitié des projets qui ne sont pas examinés d'un point de vue environnemental. Ce que dénoncent toutes les associations environnementales et ce que dénonce par exemple le CNPN dans son rapport de 2024.
Parce que l'électricité, on en parle ces derniers mois, il y a toujours des gens qui investissent, donc c'est avec l'espoir évidemment d'une rentabilité, il y a de l'argent. dans ces champs de panneaux photovoltaïques. Bon, moi, j'entends surtout ces derniers mois que l'électricité en France, on ne sait plus quoi en faire. On surproduit, quoi. On la vend à d'autres pays, donc il y en a déjà trop. Alors, si on en rajoute encore, eux, ils ont fait leurs calculs et pour eux, c'est toujours rentable d'avoir des projets comme ça.
Il y a plusieurs logiques qui sont à l'œuvre auprès des gouvernements Macron successifs. Comment François Bayrou s'en est expliqué de cette histoire de surproduction due aux ENR ? Parce qu'on a une baisse du nucléaire quand ils étaient tout en maintenance post-Covid. Oui. Maintenant, tout est reparti à bloc. Et comme ils sont dans une stratégie d'empilement des énergies nucléaires plus énergies renouvelables, on se retrouve avec une véritable situation de surproduction. Mais ils ont forcément toujours la solution. C'est de dire, rassurez-vous, on va construire des méga data centers.
Ah oui,
qui consomme l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants, c'est ce qu'avait déclaré Bayrou dans son débat sans vote sur la programmation pluriannuelle d'énergie, et on va construire aussi des gigafactories qui vont absorber ce surplus de production. Et là, récemment, on avait eu un plan du gouvernement, il y a quelques semaines, pour l'électrification des usages
à
longue échelle. Voilà. Nous, on pourrait y revenir, ce qu'on met en avant, c'est que pour correspondre à tous les scénarios, par exemple le scénario négawatt, avec qui, par ailleurs, on peut avoir des désaccords, puisque Négawatt prône le fait qu'il faut mettre des centrales photovoltaïques sur terres agricoles, naturelles et forestières.
D'accord.
Mais en tout cas, Négawatt a un rapport depuis plusieurs années qui explique comment sortir avec de la sobriété du nucléaire et des fossiles. Eh bien, nous, on explique que ces surfaces revendiquées par ces scénarios, y compris le scénario sobriété M0 de RTE, donc le gestionnaire du réseau électrique, tous ces scénarios expliquent qu'il faut tant de gigawatts de photovoltaïque. Et on explique de notre côté que ces surfaces sont déjà disponibles sur des terres artificialisées, des toitures, des parkings, des routes, etc.
Et aussi en Aveyron.
Alors, en Aveyron, largement aussi.
Ouais. Parce qu'il y a moins de toitures que dans les Hauts-de-Seine, si tu veux.
Mais chacun peut constater, ne serait-ce qu'aux alentours des grandes villes, entre guillemets, comparées à d'autres, mais que ce soit Rodez, Villefranche, De Casville, regardez les zones industrielles et artisanales, et regardez si vous voyez des panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments, si vous en voyez sur les parkings de vos grandes surfaces.
D'accord.
À part à la
marge. Grandes surfaces, j'en vois.
Certaines. Mais proportionnellement, il y en a beaucoup moins que ce qui se fait sur terres agricoles, naturelles et forestières. Actuellement, pour donner un ordre de grandeur, j'ai expliqué le chiffre que, en décembre 2025, Reporter avait montré qu'il y avait 11 500 hectares de terres agricoles, naturelles et forestières qui avaient été touchées par des centrales photovoltaïques. Et il y a déjà, je vais parler en gigawatts, 28 gigawatts, donc potentiellement plus de 55 000 hectares de terres. Si on prend la fourchette,
ça commence à faire grand, ça.
Oui, qui sont autorisés. C'est-à-dire que les projets ont été autorisés par l'administration et qui sont en attente d'être construits.
D'accord, sur la France.
Sur la France. Donc en fait, à ces 11 500 hectares déjà construits, il y a 28 gigawatts. Donc en valeur haute, je vais trancher la poire en deux, on va dire 30 000 hectares qui sont en attente et déjà autorisés. Et rien que ça, ce qui est autorisé et ce qui est déjà construit, ça correspond à la fourchette basse des objectifs gouvernementaux de ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie pour 2035. Donc il y a déjà un engorgement de projets, ce qui va faire et ce qui fait conclure à Reporter que 9 projets sur 10 actuellement ne vont pas aller au bout. Et ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut que les gens comprennent, et chacun peut le constater, c'est qu'actuellement il y a plus de 10 000 projets photovoltaïques en France sur terres agricoles, naturelles et forestières. Ce qui fait cet engorgement dans les administrations, parce que les gens n'arrivent pas à gérer les CDPNAF, etc. Et les développeurs le savent très bien, c'est qu'avec cette stratégie d'engorgement, ils savent très bien que 9 projets sur 10 n'iront pas au bout.
Le printemps photo révolté à partir de vendredi, samedi et dimanche à Cajar, ça sera l'occasion bien sûr de discuter de tous ces sujets, de les présenter, donner l'information, parce que toi, il y a des gens qui doivent être au courant, mais bon, moi, tu sais, je connais rien. Je vois des panneaux au-dessus de mon hypermarché, puis voilà quoi. Et puis des enjeux que tu as commencé à nous présenter dans cette émission. Ces 3 journées alors d'échange mais aussi d'animation, ça va être sérieux, Loïc, tu es très sérieux depuis que je te connais, ça c'est très informé aussi, c'est super, mais bon, il va y avoir du concert, des représentations théâtrales, du spectacle et compagnie, on va en présenter quelques éléments, mais c'est donc votre association, la Coordination Nationale Photo Révoltée, qui a préparé l'événement, associée à plusieurs associations, c'est pas très joli ce que je dis, mais avec plusieurs associations.
Oui, on est plusieurs à organiser cet événement, donc bien sûr il y a notre association, mais il y a aussi les confédérations paysannes du Lot et d'Occitanie.
D'accord.
Les faucheurs volontaires du Lot, l'AELC qui nous accueille dans leur ville à Cajar.
C'est quoi l'AELC,
L'AELC, c'est l'association Environnement Lot Scellé qui fait face depuis plusieurs années à un projet de Total Energy qui va aller déforester toute une zone de Cosse sur le Quercy, sur la dorsale du long du Célé.
D'accord.
Voilà, un projet
okay.
total
ouais,
avec
y a un enjeu
de diversité
local,
qui
ouais.
ressemble un peu au projet auquel on a fait face, sur lequel on a gagné sur le Causse-Comtale ces dernières années. Donc beaucoup d'enjeux biodiversité faits par Total. Mm-hmm. Y a aussi la Librétech de Cahors et d'autres associations que je vais oublier, mais en tout cas, il y a 9 co-organisateurs que vous pourrez retrouver sur notre site qui porte le nom de notre association. Et donc, c'est 3 jours dédiés à des réflexions, à des regroupements pour parler de tout ça, mais aussi plus largement pour ouvrir sur les luttes environnementales et les luttes territoriales de ce qui se passe en France. Donc, il y aura tout un temps, plusieurs temps de rencontres, débats, de conférences sur l'agriculture paysanne avec des représentants de la Confédération paysanne, des temps sur l'écoféminisme avec, entre autres, la projection du film Ni les femmes ni la terre de 2 réalisatrices aveyronnaises. Il y a aussi la venue de David Dufresne qui va parler de sa grand-mère Françoise Daubonne, qui a forgé le terme d'écoféminisme dans les années 70. Mmh. Il y a aussi la venue de la maison d'édition Wild Project, maison d'édition marseillaise, qui va venir et temps pendant lequel on va lire des textes de cette maison d'édition. Mais plus largement, il y a aussi des spectacles, du théâtre, des concerts, avec par exemple la compagnie L'Agite de Toulouse, qui va venir jouer un texte de Catherine Zambon. Il y a la compagnie Jupon du Gard qui va venir jouer des spectacles. Il y a une compagnie aveyronnaise avec le spectacle Au Cube. Et puis tout un tas de concerts, de fanfares et des repas collectifs pour plusieurs centaines de personnes qui sont gérés par l'intercantine du Sud-Ouest. Donc voilà, un événement d'ampleur qui va se tenir dans toute la ville. Et avec des projections de films, une soirée d'ouverture qui se fait le vendredi soir.
Vendredi soir.
Avec un film que nous avons réalisé, qui est inédit, qui va être projeté pour
la
première
films,
fois. J'ai co-réalisé un film avec une réalisatrice d'Alliance Terrestre, Isabelle Alvouette, qui avait fait le film sur la lutte de la 69.
D'accord.
Nous avons réalisé ce film qui sera projeté pour la première fois le vendredi soir.
Projeté où d'ailleurs, à Cajar?
Alors, ça sera dans le Théâtre de Verdure, là où se tient actuellement le festival Africajar.
Donc, la ville de Cajar qui vous accueille, vous n'allez pas investir un champ, justement, c'est dans vos sujets, et vous installer de façon sauvage. Donc oui, c'est la ville de Cajar qui vous accueille. C'est sympa quand même. Enfin, c'est sympa. C'est son job. Mais bon, alors elle peut vous dire non, je ne peux pas, j'ai piscine.
Oui, en effet, c'est très, c'est très aimable à eux. Et puis, ils nous mettent à disposition du matériel.
D'accord.
La scène qui sert actuellement au festival aussi Africajar, sur laquelle se tiendra tous les concerts.
D'accord.
Tous les soirs, en fait.
Donc,
il va y avoir énormément de choses pour tous les goûts. Il y aura des contes, il y aura des temps pour les plus jeunes, pour les enfants. Il y a par exemple un documentaire très intéressant qui s'appelle Entre écume et nuages, un documentaire naturaliste sur une histoire de grands corbeaux et de faucons pèlerins avec la voix off de François Morel qui va être projeté le samedi matin.
Comédien.
Voilà, donc il va y en avoir un peu pour tous les âges et puis pour tous les goûts.
Ouais. Donc, un événement militant, avec des présentations, des conférences, des sujets, des enjeux, mais une soirée de journée, donc de vendredi à dimanche, festive, conviviale et familiale, Loïc, on est d'accord?
Exactement. On peut citer aussi le dimanche matin, il y aura une sorte de rassemblement, marche carnavalesque dans les rues de Cajar.
Ouais.
Des choses improvisées, des fanfares qui vont venir dans plusieurs espaces de Cajar. Il y aura des petits spectacles, des conteurs, des conteuses. Il y a aussi un village associatif avec tout un tas d'associations, un village artisanal aussi, avec des ateliers, des animations, des ventes de journaux, de revues.
C'est une première édition, ce printemps photo révolté que vous organisez?
Oui, en effet, c'est la première édition.
Et le plan, si tout va bien, mais tout va bien... Loïc, c'est de renouveler l'événement tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans, on reste à Cajar, on va ailleurs, itinérant, c'est quoi l'idée?
Alors,
vous êtes une coordination nationale, donc la France, c'est vaste.
Exactement, et c'est possible que si on renouvelle l'expérience, on parte sur d'autres départements.
D'accord, bon, on n'en saura pas plus avec toi aujourd'hui, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce rendez-vous-là, à Cajar, frontière de l'Aveyron, à quelques kilomètres de Villefranche d'Orouergue. Tous ces événements que tu as cités, on vient aux animations, spectacles, concerts, projections de films. Le détail du programme, alors évidemment, tu l'as déjà bien présenté, Loïc, mais on n'a pas tout dit. Tous les rendez-vous, parce qu'il y a pas certaines fois des horaires, même souvent pour des tableaux rondes, tiens là je tombe dessus, là, l'agriculture paysanne, lutte passée, présentée future, c'est le samedi 13 juin à 13h30, suivi d'une autre table ronde à 16h, enfin voilà, tout le détail, vous êtes réseaux sociaux, site internet?
Ça se trouve sur des réseaux sociaux, les associations co-organisatrices les ont diffusées sur leur propre réseau, mais sur notre site internet de la Coordination Nationale Photorévoltée.
On l'écrit comme ça, Coordination Nationale Photorévoltée ?
Photorévoltée, ça se trouve facilement en ligne.
D'accord, d'accord.
Les gens pourront tomber sur la programmation exacte, les modalités pratiques. Ce que je peux rajouter, c'est que c'est un festival gratuit, l'entrée est libre.
Ah bah ouais, tu veux bien te dire, ouais, bien
voilà,
sûr.
Voilà, il y a une entrée libre comme ça se tient dans toute la ville, il y a ce grand espace de verdure, mais il y a aussi la grande salle de conférence Françoise Sagan qu'on va investir pendant 3 jours, pendant 2 jours exactement. Donc voilà, ça va se dispatcher un peu dans tous ces espaces.
Ah bah c'est bien, je vous souhaite une belle réussite et de beaux rendez-vous autour de ces thématiques, à ces sujets. On rappelle que Printemps Photo Révolté, à partir de vendredi, c'est le festival des résistances aux photovoltaïques sur terres agricoles, naturelles et forestières.
Alors si tu me le permets...
Bien sûr.
Ce qui me semblerait intéressant aussi à rajouter, c'est aussi d'expliquer la logique de comment en fait on en arrive à cette situation d'aller couvrir des milliers d'hectares, des dizaines de milliers d'hectares de terres agricoles naturelles et forestières. C'est une question qui est intéressante. C'est en fait dans les années 2000-2010, on a tous vu apparaître dans le débat public l'émergence du changement climatique, encore plus qu'avant, et avec des solutions qui étaient apportées. On a vu apparaître les notions d'agroécologie, celle d'agriculture paysanne qui existait au préalable mais qui a apparu dans le débat public, d'agroforesterie, voire même de permaculture. Et donc, il y avait cette question sous-jacente, comment adapter l'agriculture au changement climatique ?
Et à ces difficultés un peu économiques, puisque leur disait, bon, vous n'arrivez pas à vendre vos fruits au prix, là, vous avez récolté un peu de sous en prêtant du terrain, quoi.
Ouais. Et c'est ça, et c'est comment, dans ce contexte-là, où il faut adapter l'agriculture au changement climatique, où le fait de vivre de son métier d'agriculteur ne fonctionne plus, pour tout un tas de raisons politiques, on en arrivait à faire croire que installer des dizaines de tonnes de métal connecté, des postes de transfo, des grillages, des pistes sur des terres agricoles, pouvait être une solution pour adapter l'agriculture au changement climatique. C'est assez étonnant de dire on va créer des zones industrielles, des dizaines de milliers de zones industrielles.
Pour l'agriculture.
Pour l'agriculture, pour l'adapter au changement climatique dans un temps où on parlait d'agroécologie, d'agroforesterie, etc. Et il y a plusieurs hypothèses qui expliquent, et raisons qui expliquent ce déferlement actuel. J'ai parlé des raisons d'opportunisme foncier et de ce que ça peut rapporter aux développeurs, mais c'est aussi le fait que je vais parler rapidement de ça, mais ce terme agrivoltaïsme a été forgé par deux personnes que sont Christian Dupraz, agroforestier, et Antoine Nogier, patron de Sener. Ils ont fondé une boîte qui s'appelle Sunagri, ils ont inventé le terme agrivoltaïsme, qui était en fait un programme de recherche de l'INRAE.
Institut national de recherche agronomique et je ne sais plus quoi, enfin bon.
Ils ont fait un immense lobbying pendant une quinzaine d'années, ils ont mis en place tout un tas de leviers rhétoriques, au premier chef desquels il y avait cette distinction arbitraire entre deux catégories de photovoltaïque, un noble agrivoltaïsme et un vulgaire photovoltaïque sur terre inculte ou non exploitée. Bon, ça a été transcrit dans la loi. Mais en tout cas, cette logique de Sunagri, qui est devenu un leader mondial, qui a fini par être racheté par Eiffage en 2022, elle a rencontré l'idéologie d'Emmanuel Macron, qui est celle de la robotique numérique génétique pour l'agriculture. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Sunagri défendait un modèle de gestion des parcelles agricoles par l'informatique et par l'intelligence artificielle, avec tout un tas de capteurs sur le terrain.
Oui, on a vu ça, pas qu'en France d'ailleurs. Mais
en tout cas, c'était les leaders mondiaux de ça. Et donc forcément, ça a rencontré cette idéologie d'Emmanuel Macron, avec le rôle d'Elisabeth Borne, qui était d'abord à transition énergétique, puis en 2022, première ministre du second mandat.
Tout à fait.
Et donc ça, c'est une des raisons qui explique cet engouement sur les terres agricoles et pourquoi la France a été leader mondial de cette histoire-là et pourquoi on subit cette déferlante. Et les autres raisons...
Je ne savais pas qu'on était encore leader mondial dans quelque chose. Non, je déconne.
En tout cas, c'est comme ça que ça a été vendu. Et c'est pour ça qu'on a tout un tas de multinationales, Voltalia, Total, Engie, qui sont assez connues mondialement. Et une autre raison, je l'ai un peu évoqué, c'est ce contexte de misère du monde paysan où les prix ne sont plus suffisamment rémunérateurs, qui fait que pour acheter le silence des syndicats majoritaires, FNSEA, Coordination Rurale, le gouvernement s'est engouffré dans ça. Et d'ailleurs, la Coordination Rurale a été le premier syndicat au national autour des années 2020-2021 à dire, bon, dans un contexte où on ne vivra pas notre métier, il faut savoir saisir l'opportunité de mettre du photovoltaïque sur nos terres et être rémunéré en fonction. La FNSEA a mis 2 ans de plus à accepter ça. D'accord. Et maintenant, d'ailleurs, la FNSEA dirige le lobby France Agrivoltaïsme qui a été créé par Antoine Nogier. Donc, il y a cette façon-là, en tout cas pour le gouvernement, d'acheter le silence des syndicats majoritaires et de tenter de taire les différentes revendications du monde agricole. Et il y a aussi ce contexte de manque d'argent pour toutes les collectivités territoriales.
Et oui. Voilà. Et oui.
Donc il y a un peu toutes ces raisons structurelles qui expliquent pourquoi il y a autant de projets qui se développent partout en France.
C'est très intéressant tout ça, Loïc, comme à chaque fois, avec toi. Hein, c'est un plaisir de pouvoir apprendre des choses. Tu es très, très, très bien informé. On rappelle, Loïc Santiago, que tu es salarié de la Coordination Nationale Photo Révoltée, qui organise ce printemps Photo Révoltée à partir de vendredi jusqu'à dimanche à Cajar, avec tous ces rendez-vous très sérieux d'information, d'échange, de partage, et puis de plaisir, de bonheur. Voilà, un week-end à Cajar, quoi, hein, avec des concerts, plein d'animations proposées pour toutes et tous. Merci beaucoup, Loïc, d'être venu dans le studio. Tu reviens quand tu veux, hein, parce qu'il y a du sujet, on l'a compris. Et peut-être un peu de boulot aussi
avec
pour
plaisir.
Vous. Hein. C'est quand tu veux. Merci, Loïc.
Merci.